Bonjour, le Collège Anne-Franck pour une quatrième ou cinquième pour le prix des lecteurs organisé par les médiathèques du Mans. On a préparé cette année une petite intervention sur le thème de la solidarité et de l'entraide dans les romans du prix. Et bien, je vais demander aux élèves de se présenter peut-être rapidement.
Dorine.
Thomas.
Timothée.
Achille.
Manon.
Bastien.
Logan.
Adela.
Très bien, merci beaucoup. Et il y a aussi Anne-Claire qui est là pour venir à la rescousse en cas de besoin. Achille, on a découvert ensemble Casseurs de solitude qui contient un certain nombre de nouvelles où on voit des personnages être solidaires les uns des autres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la première nouvelle qui s'intitule Une journée de merde ?
Oui, une journée de merde. Oui, c'est sur l'excision d'une jeune fille qui est scolarisée dans une école et donc sa mère se bat pour de pas qu'elle soit excisée.
Oui, c'est sa tante.
Excusez-moi. Ils vont recevoir aussi l'aide du directeur de l'école et de sa femme qui vont les aider à fuir entre autres c'est la mère qui veut exciser sa fille. Donc comme l'excision c'est interdit, donc ils vont tout faire pour ne pas.
Merci. Oui, c'est bien Achille, hein. Et tout à fait. Et le directeur donc prend des risques par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses, Manon ?
Bah oui, il prend des risques. Parce que c'est pas. Comment je peux dire ?
C'est pas légal.
Ouais, c'est pas légal.
D'accord. Et effectivement, il héberge deux personnes. Donc la tante qui n'a pas de papier et la jeune fille qui est menacée d'être excisée et son petit frère. Hein ? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette désobéissance civile là ? Est-ce que quelqu'un peut réagir par rapport à ça ? Est-ce que vous donnez raison au directeur et à sa compagne ou pas ? Achille ?
Oui, moi perso je trouve que c'est je donne raison au directeur et à sa compagne parce que ils sont avec et contre la loi en fait parce que ils sont contre parce que ils ont un peu enlevé une fille. Donc comme c'est pour l'aider, moi je trouve que
c'est quelque chose de positif.
Voilà, exactement.
D'accord. Et dans l'autre nouvelle, accusé de réception, est-ce que tu te souviens maintenant de cette nouvelle du garçon qui fait son stage à la préfecture ? Qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle ? Quelqu'un peut l'aider ? Vous vous souvenez pas ? Donc il y avait le garçon qui fait son stage à la préfecture et qui va intercepter une lettre. Ça y est, ça revient. Dorine peut-être. Achille, oui, tu veux ?
Oui, je me rappelle. Oui, c'est sur un garçon qui fait un stage donc à la préfecture de sa ville et qui tombe sur une lettre qu'il doit transmettre à quelqu'un de la préfecture. Et donc cette lettre dit, c'est une lettre de dénonciation envers le directeur de l'école, donc de la nouvelle précédente. Donc c'est une lettre de dénonciation pour dénoncer tout simplement l'hébergement clandestin, on va dire, de la tante de la jeune fille et du frère. Du coup, il y a aussi le frère de la jeune fille qui vit avec eux.
Mmh. Oui, tout à fait. Alors, il y avait Catalina qui avait proposé un écrit sur le thème de l'excision, mais elle n'est pas là et on n'a pas l'écrit non plus, donc on s'en passera. C'est quelque chose qui l'avait beaucoup touché et qui vous a fait réagir quand vous avez découvert le sujet. Dans d'autres nouvelles, on ne voit pas d'entraide, mais au contraire une position plutôt égoïste de certains personnages. Est-ce que vous vous souvenez de la grève ? Oui, Dorine, tu veux dire quelque chose ?
La grève, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va au collège, même s'il y a une grève, parce que ses parents ne veulent pas qu'elle reste à la maison. Et là, il y a un nouveau qui vient d'arriver. Et bon, il tombe amoureux tout de suite. Et s'enferme un moment dans la salle d'art plastique. Et la jeune fille, il papote tout ça. Et elle va chercher son sac et son téléphone portable. Et quand elle revient, elle, avant d'être retournée dans la salle, elle entend la discussion de ce garçon avec un de ses copains. Et il est en train de dire que ça va en faire une de plus à son...
Voilà, hein, il a pour, pour projet d'augmenter un peu son palmarès.
Voilà.
Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Thomas ?
Bon, ce que j'ai pensé que ça, c'est que ça... Bah, que c'était un peu ça, que ça se faisait pas trop, quoi. Et puis que, bah, ouais, c'est un peu dommage pour la fille, quoi, parce que c'est non-respect envers elle, quoi.
Voilà, c'est vrai, c'est vraiment un manque de respect. En même temps, comment elle se défend, vous vous souvenez ?
Bah, elle l'enferme dans la salle pour le week-end.
Voilà, hein, je pense que quelque part, ça va le calmer un petit peu. Par rapport à une autre nouvelle, « Droit dans son rock », cette histoire de festival de rock qui doit être mis en place, où Tim ne veut pas participer, ça ne l'intéresse pas de faire du bénévolat, et il rencontre Manon. Comment vous vous sentiriez-vous par rapport à ça ? Plutôt Tim ou plutôt Manon ? Logan, tu serais intéressé pour participer ou pas ?
Oui, quand même.
Oui, pourquoi ?
Parce que c'est bien d'aider les autres gens.
D'accord, donc toi tu es plus dans une... Oui, nous t'écoutons Achille.
Oui, bah moi perso je serais plus... Manon, parce que déjà j'adore tous les festivals, donc aller aider à monter un festival, c'est vraiment génial, parce que tu sais après que quand tu vois le festival se dérouler, ben tu vois que
c'est en partie grâce à toi.
Voilà, tu te dis c'est grâce à moi, c'est en partie grâce à moi que tout ça c'est possible.
Voilà, tout à fait. Il y a le côté positif pour soi aussi, hein, le fait de participer à une action collective, c'est un côté souvent positif aussi pour soi. Hein. Manon, tu ne veux pas intervenir. Alors il y a un autre roman où on voit aussi la vie de Billie Holiday, où il y a quelques éléments d'entraide, mais enfin c'était pas le centre du roman. Est-ce que Fadela, tu peux nous raconter l'histoire de Billie H? Nous t'écoutons, Fadela. Un petit peu, en gros, c'était quoi ? C'est l'histoire de qui ? Est-ce que tu te souviens qui est Billy ? Non ? Tu es impressionné, là. Quelqu'un peut l'aider ? Quelqu'un a lu ce roman ? Quelqu'un d'autre ? Vaguement, Dorine, un début ? Nous t'écoutons.
Billy H, elle s'appelle pas comme ça en vrai, elle s'appelle Eleanora. Mm-hmm. Et au début, c'est une petite fille bagarreuse. Sa maîtresse lui a dit dès qu'elle l'a vue. Et à un moment donné, elle sèche les cours. Et puis elle va se balader dans la rue et elle rencontre deux garçons. Et ensemble, ils jouent un peu les pickpockets. Et puis, à un moment donné, ils vont sur une rue où il y a plein de jazz et tout ça. Et puis, elle adore. Et puis, après, j'ai pas lu.
D'accord. Et je crois que tu n'as pas tellement aimé cette écriture. Qu'est-ce qui t'a gêné dedans ?
Eh ben, en fait, c'était très, très compliqué. C'était... pendant un paragraphe, c'était une écriture normale, et puis tout de suite après, ça partait dans les pensées d'Eleanora. Mm-hmm. Et là, c'était que d'abréviations et de mots bizarres. Et...
C'est vrai. Et il y avait un côté très très free jazz, justement, un petit peu. On partait comme ça, un petit peu.
Un peu n'importe où.
Oui. Achille.
Oui. J'ai pas lu le roman, mais je vois à peu près ce que tu veux dire, que ça t'a un peu déboussolé de voir des abréviations de partout. Oui, c'est ça.
C'était très...
Oui, ça avait un côté perturbant. Et Fadela, justement, qui, elle, a lu le roman en entier, elle était un petit peu impressionnée tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais quand même, Fadela, nous lire le texte que tu as écrit sur la colère de Billy ? Tu prends un petit peu sur toi et tu nous lis ton texte, il n'est pas très long. Hein ? Je suis la colère de Billy. Tu nous proposes ça ? Non ? Est-ce que, Anne-Claire, tu peux prendre le relais et nous lire La colère de Billy, hein, parce que c'est quand même un texte sympa et on peut comprendre que Fadela soit impressionnée à l'antenne.
Je suis la colère de Billy. Elle me pousse à chanter pour avoir sa vie à elle. Chanter est l'une de ses plus grandes passions. Elle aime beaucoup le jazz. Le jazz, c'est sa vie. C'est mon père, après m'avoir écouté chanter, qui m'a incité à avoir une vie artistique, chanteuse de jazz. Maintenant, Billy est une femme riche, pleine d'argent et de richesses. Et moi, la colère, j'accepte mal que mon père ne m'ait pas aidée.
Merci Fadela. C'est vrai que si tu veux ajouter quelque chose, tu n'hésites pas à faire un petit signe. C'est vrai que le père de Fadela est, pardon, le père de Billy est quelqu'un qui ne la soutient pas, il a l'air sympathique comme ça, mais en fait, il a l'air d'être un peu un grand adolescent. Il prend pas ses responsabilités, et il est pas d'un grand soutien pour sa fille. Timothée, maintenant, je vais faire un petit peu appel à toi. Tu as lu, c'est courageux, hein, parce que c'était un gros roman, La double vie de Cassiel Ronknight. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire déjà?
C'est l'histoire de Chap. Oui. C'est l'histoire de Chap qui prend la vie de Cassiel Ronknight.
Tout à fait. Tu as retenu une phrase d'ailleurs par rapport à ce roman-là. Il me semble. Vas-y, t'écoutons.
Chap n'a pas cherché à se faire passer pour un autre, il a simplement laissé faire.
Tout à fait. Hein. Il était dans un espèce de centre judiciaire et puis on lui a dit: mais ça y est, on sait qui tu es Cassiel Ronknight, et lui, il n'a pas dit non.
Hein. Sauf que c'est... Si, il a dit non, mais après, ils ont tellement insisté que...
Il a dit oui. Voilà. Il s'est dit, après tout, on va bien voir. Hein. Tu as imaginé être Franck, Timothée, le frère aîné de Cassiel, qui n'est pas Cassiel en réalité. Est-ce que tu peux nous lire ton texte? Ouais. Mets-toi bien en face du micro.
Je suis Franck, le frère de Cassiel. Je l'ai tué, brûlé. Aujourd'hui, un imposteur vient de m'appeler. Il se dit être Cassiel. Ça ne se peut pas, je fais mine de rien. Et je continuerai à apparaître content de son retour. J'élaborerai alors un plan pour le tuer aussi. Mais le temps presse parce que cet imposteur connaît la vérité sur Monsieur Artemis. Et je dois m'en débarrasser au plus vite.
Merci Timothée. C'est vrai que tu as bien montré la duplicité de Franck, qui fait semblant d'aider son frère alors qu'en réalité, et c'est quand même lui qui... on va pas dévoiler là. Il faudra le lire. Toi, Dorine, tu n'as pas accroché à la lecture de ce roman. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Non, en fait, je peux pas dire pourquoi. C'est juste, je l'ai pas lu assez vite et du coup.
Ça a manqué de rythme. Le fait de lire trop, en prenant trop son temps, parfois, ça fait que le roman va manquer de rythme.
Voilà, j'ai mis trop de temps entre chaque morceau, donc. Voilà.
D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il peut, Timothée? Changer sa vie d'après toi s'il n'a pas d'identité? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que le faux Cassiel va réellement pouvoir changer sa vie? Est-ce qu'il change sa vie?
Oui, il change sa vie.
D'accord. Pour toi, il change sa vie. Et toi, Dorine, qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, j'ai... il s'est perdu, en fait. Il a perdu son identité et tout ça. Et maintenant, il est en train de changer l'identité d'un autre.
D'accord. Comment ça, changer l'identité d'un autre? Vas-y, c'est juste. Et comment?
Le vrai Cassiel Ronknight, lui, il était méchant avec sa famille. Il était pour que sa mère continue de se droguer à moitié, en fait. Mm-hmm. Et le nouveau Cassiel, en fait, lui, il est toujours gentil. Il essaie d'être le plus aimable possible. Il pense que sa mère devrait devenir plus lucide parce qu'elle est un peu dans les choux et tout ça.
C'est assez vrai. Hein. En quelque sorte, il a changé l'identité du vrai Cassiel qui, lui, a disparu. Aussi parce qu'il est très heureux d'avoir une famille. Mm. Hein. Il a cette soif d'avoir une famille.
Il était très seul avant, oui.
Voilà, il avait quand même quelqu'un. Est-ce que tu te souviens, Timothée?
Ouais, son soi-disant grand-père.
Et pourquoi soi-disant?
Parce que en vrai, il l'a accueilli dans sa maison.
Voilà, c'était un enfant abandonné et c'était le C'était qui en réalité cet enfant abandonné?
C'était le frère de Cassiel Rodknight.
Tout à fait, bravo.
Le frère jumeau.
Oui, bravo. Hein, c'est un roman qui n'est pas facile. C'est une bonne lecture. Hein. Vous semblez avoir bien cerné les différents personnages. Nous allons passer maintenant à un autre roman, Les Sentinelles du Futur. Alors là, il est vraiment question de l'entraide. On voit que c'est grâce à la solidarité entre les générations que les gens peuvent s'en sortir. Logan, tu peux nous raconter un petit peu ce roman?
C'est une histoire qui se passe dans le futur, mais dans un autre futur. Mm-hmm. C'est un jeune garçon, en fait, qui va partir aider l'autre futur, car il va y avoir une attaque par mm-hmm. des extraterrestres. Donc, au final, il va rencontrer aussi une jeune fille qui va pouvoir lire dans les pensées des extraterrestres et arriver à sauver l'autre monde.
Voilà, hein, quand tu parles de l'autre monde, c'est
l'autre futur.
Le futur, quoi. Enfin, le futur plus lointain. Quelles ont été les conséquences de l'entraide, là? Alors, le fait de se préoccuper vraiment des autres, quelles conséquences ça a eu pour les gens
qui ont sauvé leur monde?
En fait, voilà, hein, ils se sont sauvés eux-mêmes parce qu'ils ont été aidés
des... Du passé.
Alors, non, pas les gens du passé. Tu ne l'as pas lu, Dorine. C'est très compliqué. Alors, c'est vrai que là, si on ne l'a pas lu, c'est difficile d'en parler. mais oui, c'est ça. Il y a deux futurs, en fait. Et le futur le plus éloigné est sauvé par le futur le plus proche de nous. Tu as revu le texte, Logan, à travers l'œil du couloir du futur. Est-ce que tu peux nous lire le texte en, voilà, tu es le couloir du futur. Est-ce que tu peux raconter ce que tu as vécu en tant que couloir du futur?
Je le lis.
Oui, tu peux le lire.
Je suis le coureur du temps. Je vois passer les gens qui vont d'un futur à l'autre pour faire des explorations et arriver à sauver leur avenir. Mais un jour, il y a une attaque invisible, loin dans l'avenir. C'est pourquoi les gens du futur vont partir les secourir et envoyer plusieurs avions pour les aider. Au final, ils y arriveront grâce à deux personnes. Ils reviendront dans leur époque. Avec ces événements, j'ai été beaucoup abîmé.
Voilà, j'ai été beaucoup abîmée. Hein. C'est ce que ressent les couloirs du futur. C'est vrai que il est très très abîmé par la guerre, le couloir du futur. Hein. Et donc, on observe dans ce roman l'importance des scientifiques et notamment de l'un des personnages qui font un certain don de soi pour l'avenir. Je pense à Jérém. Qu'est-ce qu'il devient, ce personnage? Est-ce que tu te souviens, Jérém, l'ami de Nuts et de Elon.
Non, je sais plus.
Non, tu ne sais plus. Il devient scientifique de renom. Et oui, vas-y, ça te revient.
Ah oui, il devient scientifique, un des plus connus, je crois.
Voilà, parce que il a participé.
Non,
tu ne sais plus au Svalbard à la conservation des semences dans le Svalbard, qui est un événement réel. Hein. Aujourd'hui, dans le Grand Nord, on conserve des semences pour préserver la biodiversité et en cas de besoin, si des espèces disparaissent, on aura encore ces semences. Mais bon, ça ne justifie pas qu'on n'en prenne pas soin dans la réalité, évidemment. Il y a d'autres scientifiques qui ont laissé leurs traces, qui se sont investis vraiment pour les autres au niveau historique. Je pense à Marie Curie. Je crois que les troisièmes ont un petit peu travaillé là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Marie Curie, Bastien?
Elle a inventé la radiologie et les rayons X.
Voilà, et ça a permis quoi, ça, par exemple?
De sauver des soldats pendant la Première Guerre mondiale.
Voilà, tout à fait. Hein, ça a été vraiment une source de progrès pour l'humanité, on peut dire, ses travaux, tout son engagement dans la vie scientifique. Hein. Et donc, les Sentinelles du Futur évoquent un petit peu cet aspect-là, hein, de gens qui s'engagent vraiment, qui dévouent leur vie à des causes comme ça. Alors, il y a un autre roman où on parle aussi de changer l'avenir, où ce sont des femmes qui se sacrifient, en quelque sorte, à Saint-Domingue. Mais Catalina n'est pas là pour nous en parler. Encore une fois, on peut le déplorer. Il ne sera pas vraiment question des trois sœurs et le dictateur, à moins que quelqu'un ait un petit peu mis le nez dedans, mais je ne pense pas. Alors, il y a un autre roman dramatique, parce que les trois sœurs, elles meurent, hein, quand même. Enfin, l'une des sœurs, pardon, meurt, et du fait de la dictature. Donc, il y a un autre roman où il n'y a pas cette dimension politique, mais on voit quand même l'importance des interactions entre les personnages et Il s'agit de Après la vague, que plusieurs ont lu. Est-ce que Fadela, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire d'Après la vague? Non, ton ta parole n'est toujours pas revenue. Donc on ne saura pas si le roman t'a touché ou pas. Non, tu ne. D'accord. Dorine, peut-être tu peux nous parler de ça, de nous raconter un petit peu l'histoire d'Entre la vague.
Alors, c'est l'histoire de Maxime qui est en voyage avec ses parents. Et c'était à Hawaï.
On ne sait pas trop. Hein. Ça peut être en Indonésie.
Sur une île, en tout cas.
Sur une côte. Hein, voilà. Donc, voilà, ça peut être en Thaïlande.
Et puis, voilà. Et c'était un jour où ses parents ont proposé une sortie. Et puis, lui, il a refusé. Et avec sa jumelle, ils sont restés dans leur hôtel. Mm-hmm. Et après, du coup, ils sont allés à la plage. Et puis là, il y a eu un tsunami et sa sœur est morte dans le tsunami. Et du coup, après, c'est toute l'histoire de lui, comment il le vit, de
D'accord.
son deuil.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les étapes de ce deuil? Oui, Fadela, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Nous t'écoutons.
C'est triste.
Oui, c'est un roman très triste. C'est vrai que tu as été touchée quand même par ce roman. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Est-ce que tu as vu qu'il se sent coupable de la mort de sa sœur? Est-ce que tu penses, toi, qu'il est coupable de...
Non.
Non, hein, il n'y est pour rien. Il n'a pas eu de chance. Enfin, elle n'a pas eu de chance. Oui, Fadela?
Et il est malheureux.
Il est très malheureux. Hein, donc, justement, Dorine, tu vas nous décrire les étapes parce que ça évolue quand même. Il est pas toujours dans le même état. Hein. Nous t'écoutons.
Alors, déjà, la première étape, quand il s'est pas encore tout à fait rendu compte que sa sœur était morte. Donc, il sait qu'elle est morte, mais en même temps, c'est pas encore parvenu à faire tout son chemin dans son cerveau. Ensuite, c'est vraiment quand il s'en rend compte, quand il se sent seul. Mais il a quand même sa famille avec lui. Donc, eux aussi ont perdu un être proche. Donc, il est pas encore totalement seul. Ensuite, c'est quand son frère et ses parents ont fini leur deuil. Là, il se renferme complètement. Il est complètement perdu.
De voir les
voilà.
Autres,
hein. Il s'enferme. Voilà. Quand il va commencer à faire des petites sorties au parc, là, il va rencontrer, une personne que sa sœur, c'est un SDF que sa sœur lui parlait parfois. Donc lui, il a envie de s'approcher de lui parce que ça lui fait un peu comme l'impression de revoir
de
sa sœur un
sa
peu.
Sœur, oui.
Voilà.
Mmh.
Ensuite, quand il pense que c'est sa faute, quand sa culpabilité l'emporte et que il pense que c'est sa faute, voilà.
Voilà, il a un moment comme ça où vraiment il s'en veut énormément, oui.
Mm-hmm. Ensuite, encore, c'est quand il avait une blessure et elle s'est infectée. Alors lui, il l'a pas dit tout de suite. Parce que à travers sa douleur, il voyait un peu comme une sorte d'échappatoire à la douleur de la perte de sa sœur.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Voilà. Mmh. Et du coup, ensuite, il va à l'hôpital parce que ça s'est quand même infecté. Mmh. Et là, après, il s'échappe de l'hôpital parce qu'il a trop honte de pas en avoir parlé. Et il part en train dans plusieurs villes et il fait un peu le tour de l'Europe, en fait.
Voilà, il va s'ouvrir un petit peu aux autres et c'est peut-être ça qui va l'aider à sortir de son deuil, finalement.
Voilà, et en fait, à ce moment-là, pendant son escapade, il rencontre une bonne sœur et c'est à ce moment-là qu'on voit que le deuil est terminé, là.
D'accord, ça veut pas dire qu'il ne... Voilà, il a toujours une douleur pour sa sœur.
Voilà.
Voilà, mais il a fait son travail de deuil. Hein, on parle d'un travail de deuil. Fadela, est-ce que tu te souviens comment réagissent les parents et le frère du personnage... je ne sais même plus son nom, d'ailleurs.
Maxime.
Maxime, voilà. Est-ce que tu te souviens comment réagissent les parents, non? Est-ce que eux se laissent comme ça emporter par la douleur sans rien faire? Non, tu ne sais plus.
Je ne sais plus.
D'accord.
Il monte une association qui s'appelle Jade, comme sa sœur.
Oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment là l'idée de s'investir pour les autres qui vont les aider à sortir un petit peu d'eux-mêmes et puis à oublier, enfin, pas oublier, mais à surmonter ce deuil. Hein. Il y a une très grande richesse d'écriture dans ce roman, au niveau temporel notamment, puis au niveau des images. Et il y a de belles métaphores qui ont été explorées et prolongées par Dorine, qui propose un angle de présentation, en fait. Elle va décrire le tsunami du point de vue de l'un des oiseaux blancs. Est-ce que tu peux nous lire ton très beau texte, Dorine ? Nous t'écoutons.
Voilà, donc, je suis un de ces nombreux oiseaux blancs sur cette plage de sable fin. Je ne me doute pas de ce qui se passera dans quelques minutes, de ce qui terrorisera tout ce monde autour de moi, de ce qui rendra au moins un garçon extrêmement triste à cause de la perte de sa jumelle dans cet accident tragique. Je ne sais rien de ça, mais je sens cette sensation dans l'air, cette envie de m'envoler loin, et je sais que tous les autres aussi. Tous les animaux de cette île sentent la tension, sauf une, celle qui est censée être la plus intelligente des espèces de cette terre, l'homme. Je ne les aime pas, mais je ne suis pas idiot comparé à ce qu'ils pensent, et j'ai envie de les sauver tous. Je sais très bien que c'est impossible, et ça m'attriste un peu. Mais je n'ai pas le choix. C'est en pensant à tout ça que je la vis arriver, cette vague immense, fonçant droit sur les côtes. Elle me fit peur. Pourtant, je vis tous ces humains s'approcher, continuant à parler, à rire, beaucoup ne se rendant même pas compte de la gravité de la situation. Mais j'en vois une qui paraît terrorisée par ce qu'elle voit. Elle tire quelqu'un par la manche. Il a l'air de lui dire d'arrêter de le tirer. Il veut sans doute la regarder, cette vague envoûtante. Il ne se rendit compte de l'erreur qu'il avait faite en perdant autant de temps que lorsque je m'apprêtais à partir. Ils coururent tous les deux jusqu'à disparaître de mon champ de vision. Quand la vague s'écrasa sur la côte en emportant deux ou trois touristes, j'étais déjà loin. Quand je me posais de nouveau, tout n'était que désolation, tristesse et ravage. Je ne revis jamais cette fille qui avait su avant les siens que la fin était proche.
Merci Dorine pour ton texte, vraiment un très beau texte. On va peut-être continuer avec toi parce que Stécie n'est pas là et Thomas nous lira après ses écrits. Mais est-ce que tu peux rapidement, brièvement nous résumer La vie étonnante d'Elise Spencer, qui est aussi un roman de résistance par rapport à la conformité hein.
Alors, Elise Spencer, elle vit dans un monde où si on n'est pas hyperactif, on n'est pas normal. Donc, elle, c'est une fille calme, rêveuse, qui est très, très calme, en fait, voilà. Et elle est considérée comme une enfant à problème. Et à un moment donné, elle va dans son école, où elle rencontre un enfant comme elle. Et là, il lui propose de rentrer dans la résistance. Finalement, ils vont essayer de détruire un peu tout ce qui fait de son pays le plus beau pays que les autres aient jamais vu, quoi.
Voilà. Hein, donc là, c'est vraiment la lutte contre l'hyperactivité et pour un retour au fait de ne rien faire. Hein. Stécie avait proposé un petit portrait chinois d'Élise. Est-ce que tu peux nous le lire, Thomas ?
Si mon père était une saison, il serait l'été. Si mon père était une fleur, il serait une rose. Si mon personnage était une couleur, il serait orange. Si mon personnage était un animal, il serait un chat. Si mon personnage était un sport, il serait du yoga. Si mon personnage était un objet, il serait une tablette. Si mon personnage était une odeur, il serait un parfum d'une tour. Si mon personnage était un nombre, il serait 11, presque 12. Si mon personnage était une boisson, il serait du Fanta, comme la couleur de mes cheveux. Si mon personnage était un mot, il serait le mot molle. Si mon personnage était un plat, il serait des carottes. Si mon personnage était un jour de la semaine, il serait le vendredi. Si mon personnage était un jeu, il serait le jeu des petits chevaux. Si mon personnage était un métier, il serait informaticien. Si mon personnage était un fruit, il serait une orange.
Merci Thomas et merci à Stécie pour ce portrait plein de fraîcheur, comme Élise d'ailleurs. Donc Dorine, toi tu as proposé de relire le roman à travers les yeux de la puce électronique dont sont dotés les personnages pour pouvoir les surveiller. Est-ce que tu peux nous présenter ton texte et puis on essaiera peut-être après d'aborder un autre roman.
Voilà donc. Ça fait longtemps que je la suis, que je la vois. Ça fait longtemps, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je la regarde. Tout a commencé quand elle est rentrée pour la première fois dans cette école. Elle essayait de paraître normale, mais n'était pas très crédible dans le rôle de la fille hyperactive. Surtout pour ceux qui la connaissent un peu, comme moi par exemple, qui la connais depuis qu'elle a un jour à peu près. Je pense qu'elle savait parfaitement que c'était idiot de suivre les conseils de ses frères, qu'elle ne serait jamais pareille que ses camarades de classe. Ce n'est que quand cet étrange garçon l'a invitée pour la deuxième fois qu'elle a commencé à redevenir elle-même. Je n'ai pas assisté à tout leur entretien, mais il a dû lui dire quelque chose d'important parce qu'elle a changé de comportement à partir de ce jour. Elle était plus proche du frère qu'elle aimait le moins. Je perdais souvent le contact avec elle. Ce n'était jamais plus de 15 minutes, mais ce devait être important à chaque fois. Je ne l'avais pas soupçonné au début, mais après la célébration du nouveau pacte d'alliance, j'ai su. Elle était entrée dans Résistance, une association constituée de rêveurs. Je me suis sentie trahie, mais maintenant, je sais que c'est une bonne chose. Alors, merci Élise.
Et merci à toi Dorine pour ce texte encore bien dynamique. D'autres romans n'ont pas été abordés parce qu'ils ont moins tenté les lecteurs, mais quand même Bastien et Logan ont imaginé une histoire possible à partir du titre. Donc le titre en question, c'est L'homme qui dessine. On écoute Bastien ?
L'homme dessine pour une grande marque de voiture. Il dessine la carrosserie depuis qu'il a 5 ans. Il est entré aux Beaux-Arts. Il dessine plus de 10 dessins par jour. Après plus de 5 ans d'études, il a été repéré par Citroën, a été embauché pour dessiner les voitures. À ce moment-là, Citroën est le numéro 1 au niveau des ventes.
Alors voilà, c'est une histoire complètement imaginée à partir du titre, parce que le roman se passe quand même lors de la préhistoire, donc on a vraiment un grand saut temporel là. Logan, tu avais aussi proposé une histoire, mais tu n'avais pas lu le roman non plus. Non, alors nous écoutons ton histoire, enfin ta proposition.
C'est l'histoire d'un homme qui vivait comme à l'état sauvage et qui passait son temps à dessiner sur les murs des grottes pour faire croire aux touristes qu'il existait encore des hommes préhistoriques. Tous les chercheurs venaient voir ces grottes peintes par un imposteur.
Voilà, merci Logan. Donc ce roman, je ne sais pas pourquoi il ne vous a pas attiré. Personne, oui ?
Oui. Si, moi j'aurais aimé lire.
Mais... tu peux encore, tu pourras encore après. Donc on va revenir au thème de l'entraide avec mes débuts dans l'art. Y a peu d'entraide dans ce roman parce que c'est vraiment le monde de la concurrence entre les tenants de l'art moderne et puis les tenants de l'art classique. Mais à un moment, l'un des professeurs est victime d'homophobie. Donc on va y revenir tout à l'heure. D'abord, Bastien, est-ce que tu peux nous proposer ton résumé fictif aussi de ce roman que tu n'as pas lu, hein ? Donc toi, comment tu as qu'est-ce que tu as imaginé dans ce roman ? Nous t'écoutons.
Je m'appelle David Robert. Je suis né le 27 avril 1990. J'ai commencé là à l'âge de 8 ans. Mes débuts dans l'art ont été difficiles car il fallait amuser une exposition pour me faire connaître. Après m'être fait connaître, le succès est arrivé et j'ai été exposé dans les plus grands musées.
Merci Bastien. Thomas, toi tu as lu ce roman. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ? Nous t'écoutons.
C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va se rendre compte qu'il a un don de dessin en fait. Et son père va absolument vouloir le faire savoir et le faire grandir. Donc il va l'inscrire dans une école d'art.
Oui, qui est fondée grâce à lui d'ailleurs, au père qui s'appuie sur le maire pour créer cette école.
Et le fils ne veut pas, c'est pas ce qu'il aime faire, mais il va le faire pour faire plaisir à son père. Mmh. Et il va y avoir un prof qui va être victime d'homophobie dans cette école.
Tout à fait.
Et puis à la fin.
Comment réagissent les élèves par rapport à ça, par rapport à l'injure qui lui est faite ? Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que cet acte homophobe qui est pratiqué contre le professeur ?
Les élèves le jugent parce qu'il est un peu efféminé, il a un petit accent italien et il est efféminé, donc ils le jugent, ils le traitent, ils ont même jusqu'à taguer sa voiture de bombe rose.
Oui. Donc, il traverse la ville comme ça. Enfin, il se sent humilié d'avoir été traité comme ça, évidemment. Et comment ils réagissent? Enfin, est-ce que quelqu'un l'aide? Est-ce que quelqu'un fait preuve de solidarité par rapport à lui?
Non, on le laisse dans la souffrance, en fait. Ouais.
Tout à fait. Alors que pourtant, l'un des élèves, celui qui dessine bien, le Chris, il s'appelle, ou Donner, plutôt Donner.
Non, il s'appelle David.
David, pardon. J'ai du mal avec le nom des personnages. Et lui, David, est-ce qu'il ne participe pas? Enfin, est-ce qu'il ne n'essaie pas un peu de le soutenir? Qu'est-ce qui se passe entre David et lui?
Il essaye un petit peu, mais il ne le fait pas trop voir parce qu'il a peur de se faire juger par ses camarades et de ne pas avoir de copains convivants.
Voilà, donc il va pas jusqu'au bout de sa solidarité. Il va le voir, en fait, parce qu'il aime bien ce prof, hein, mais il n'ose pas vis-à-vis de ses camarades, etc. Donc effectivement, c'est un roman où on voit que là, la solidarité, elle marche pas et finalement, tout le monde en est un peu malheureux. Logan. Tu as lu, toi, Sacrifice à la Lune, où là aussi, il est question d'entraide, mais c'est très compliqué, ce roman. Est-ce que tu peux nous le raconter un petit peu?
C'est pas la même entraide, parce qu'au début, il arrive sur l'île et il connaît...
Alors, qui ça? Il a le personnage principal,
le,
tu
le
veux dire?
Le personnage principal.
Qui s'appelle? Eric.
Eric arrive sur l'île au début pour faire un article dessus. Mais au final, il connaît personne, mais il va se lier d'amitié avec des gens.
Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette île?
Elle est mystérieuse.
Mm-hmm.
Donc, ils y cultivent des plantes assez bizarres.
Mm-hmm. Est-ce qu'elle provoque ces plantes? Des hallucinations et puis l'immortalité un peu aussi, hein, je crois.
C'est ce qu'ils disent, mais...
C'est ce qu'ils disent, mais...
Ils sont pas immortels.
C'est pas vérifié, hein, voilà. Timothée, tu as retenu une phrase qui représentait pour toi le livre. Un extrait, d'accord. Est-ce que tu peux nous le lire?
Le soleil ne se couche pas. C'est la première chose que remarque Eric Seven sur Blessed Island. Il est minuit passé. Or, l'astre continue de briller, effleurant à peine de son disque scintillant la mer étendue à perte de vue. Aucun de vous ne peut ce temps grandir. À Rose Lune, il faudra bien périr.
À Rose Lune, il faudra bien périr. Et pourquoi tu as choisi cet extrait?
Je l'ai choisi parce qu'il me fait penser au livre. On pourrait le faire deviner en lisant cet extrait. Surtout en rappelant que le soleil, il se couche pas et Rick, c'est un personnage qui change d'identité tout le long du livre.
D'accord, c'est vrai. Hein, c'est un des traits. Eric et Merle, ce sont des personnages qu'on va retrouver parfois dans des rapports de frères et sœurs, parfois dans des rapports d'amants, parfois dans des rapports d'amis. Enfin, c'est très curieux. D'un chapitre à l'autre, ils changent d'identité. Hein, et il y a une malédiction sur l'île. Alors voilà, on va conclure. Nous avons pu commenter différentes situations où les personnages interagissent les uns avec les autres, pour changer soit leur vie, un peu l'histoire de l'humanité. Et ces actions changent aussi la vie des personnes qui les ont aidées. Est-ce que quelqu'un peut réagir par rapport à ça? Dans quelle mesure les personnages sont changés? Est-ce que la vie des personnes est changée par les autres? Dorine?
Tous ces livres, ça nous rappelle que... tout seul, on peut rien faire et que à plusieurs, tout est possible.
Ouais, le beau mot de la fin. Si personne n'a rien à ajouter, je crois que on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Hein, à plusieurs, tout est possible. Et donc, j'aimerais remercier le Collège Berthelot qui nous accueille à Cartable FM, les médiathèques du Mans qui organisent le prix, qui font venir des auteurs, etc., et qui ont un blog sur lequel on peut lire des contributions. Anne-Claire, qui a réalisé cette séquence avec nous et qui va permettre aux élèves de rencontrer bientôt Hélène Vignal, l'auteur de Casseurs de solitude, dont on a parlé au début de l'émission. Nous remercions également Delphine qui se met à notre service comme chaque année, qui nous a également autorisé à diffuser sur notre radio du collège les anciennes émissions réalisées à Cartable FM. Et j'en profite donc pour donner à tous ceux qui le souhaitent la référence de notre audioblog. Il suffit d'aller sur audioblog Arte et de chercher la WAF, c'est la radio qui a du chien. En tout cas, merci à Cartable FM 93.3. Nous étions en direct. C'était le Collège Anne-Franck. Au revoir.
Au revoir. We're going to rise up singing.
nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. Can harm.